I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Hop là, mes lunettes qui tombent par terre. Bienvenue à tous dans un épisode du fauteuil spécial playoff. Nous sommes désormais évidemment dans les phases finales de la saison NFL et nous sommes évidemment heureux. Il y a eu une nuit courte juste avant notre rendez-vous puisqu'il y avait deux matchs dans la nuit qui s'est écoulée. Il y en a encore deux à venir ce soir. Hop là, pardon, à 19h et à 22h40. Je vous souhaite évidemment la bienvenue. Si vous êtes sur le chat, si vous rentrez de vacances, pas de vacances, bienvenue à Thierry, à Sébastien, à Clément et à tout le monde. Vous avez l'habitude, je mets les petits liens habituels sur le site, c'est fait, sur Twitter, c'est fait. Et hop là, je vais copier tout ça. Et sur Facebook, c'est fait à l'instant. Ça a été rapide. Cette semaine, bonjour et bienvenue à tous. Donc dans le fauteuil, je le disais, émission présentée par Unibet, comme toutes les semaines. Et on les remercie d'être avec nous. N'hésitez pas à passer par les liens que je vais mettre sur le chat et que vous retrouvez comme d'habitude sur le site et sur nos réseaux sociaux. Bienvenue, je regarde un petit peu qui est là, à Clément. Pironovski, Volfacast, Riton Laveur, Guigui, 49ers, Kevin M, Clément, Thierry, Babac, Flo 07, Mathieu, Antoine, Gus, Vendé2K, Kevin et tout le monde. Évidemment, je ne vais pas faire tout le monde, sinon on va y passer la nuit, mais bonjour et bienvenue à tous. Évidemment, ça fait un grand plaisir de vous retrouver après cette nuit courte. Petits yeux, je ne sais pas si ça se voit à l'antenne. J'ai eu la mauvaise idée de ne pas me recoucher, donc j'accuse un petit peu le coup, mais ça va aller. J'accuse un peu le coup, donc je disais, mais on va quand même parler de plein de choses et on va bien s'amuser. Le programme du jour, on va débriefer les matchs de samedi, évidemment, comment passer à côté. On va aussi prendre vos questions, on va parler de concours, de choses à gagner. Et puis, on va parler, le thème du jour, ce sont les parcours les plus fous en play-off, les plus inattendus du 21e siècle. On va remonter sur les 20 dernières années pour trouver les parcours les plus inattendus, les plus dingues, d'équipes les plus improbables. On va dire les équipes les plus improbables. Petit mot, concours, je le disais. Alors, pas de joueurs mystères cette semaine, on va se garder les joueurs mystères jusqu'à, pour le Super Bowl. On fera un méga joueur mystère avec, je veux pas dire de bêtises pour la prime, mais je crois que ce sera 200 euros si je dis pas de bêtises sur le joueur mystère, mais on va se garder ça. Par contre, le maillot de Garner Minshew qui est derrière moi, il a été gagné, c'est Vincent Piron qui l'a gagné sur Facebook. Il a été contacté, il a même déjà répondu. Donc félicitations à lui pour le maillot de Garner Minshew. Il le recevra, alors a priori il le recevra après le Super Bowl. Tous les maillots seront envoyés après le Super Bowl parce que on vous fait gagner le décor petit à petit. Le prochain qui sera à gagner, ce sera Christian McCaffrey. On va faire les mecs qui sont en playoff après. Donc Christian McCaffrey, la semaine prochaine, encore sur le site, vendredi, site, réseaux sociaux, newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. D'ailleurs, ça permettra de participer au tirage au sort éventuellement pour le prochain maillot, je vais y arriver. Petit truc à gagner aussi cette semaine, je vous l'ai dit, on fait gagner plein de goodies en ce moment sur les émissions, sur les choses comme ça. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas comment on fait gagner, j'ai un sweat Unibet dans le décor. Et ben on fait gagner un petit sweat Unibet en goodies. Donc n'hésitez pas, comment on vous fait gagner ça? Je crois qu'on peut partager sur YouTube. Alors normalement, si j'ai les stats des partages... ou alors vous pouvez taguer des amis non dans les commentaires, un truc comme ça. Bon, on va faire un truc comme ça. Non, partagez le tweet ou le Facebook, que je viens de mettre avec le lien de l'émission et je tirerai quelqu'un au sort dans les retweets et dans les partages de l'émission. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre le lien à moi-même et comme ça, vous pouvez retweeter. Hop là, regardez. Tac, vous retweetez ce message et je tirerai quelqu'un au sort, il gagne un switch Unibet et voilà, on a encore un petit lot qui part. D'ailleurs, on parlait d'Unibet, je vais mettre tous les liens sur le chat, comme ça on sera tranquille. Le lien pour aller parier sur Unibet, c'est par là, et le lien pour nous soutenir sur Tipeee, c'est par ici. Les concours sont interdits par YouTube, moi c'est rien, là on offre du décor, on s'en fout, non? Et puis c'est sur Twitter, donc partagez pas sur YouTube alors, etc. Ils sont chiants ces GAFA. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc, il est temps d'y passer. Donc, je le disais, les questions. On peut commencer par ça. Et puis évidemment, on va commencer, on va enchaîner ensuite avec les matchs de ce samedi. Parce que, non, le Jackson 8 n'est pas parti, il est derrière moi. Hop, je prends de la place. Dites-moi d'ailleurs si les rayures sur la chemise, ça fait mal aux yeux. J'étais pas sûr, parce que je sais que les chemises à petits carreaux, c'est pas évident. Donc, je le disais, les matchs de la semaine, on va commencer là-dessus, parce que je vois pas de questions arriver tout de suite, donc n'hésitez pas à en mettre. Mais je pense qu'elles vont porter énormément, évidemment, sur les matchs de la semaine, de toute façon. Ça pique un peu en haute résolution. N'hésitez pas à le dire, j'ai un t-shirt en dessous, donc au pire, je me mettrai en t-shirt. J'ai eu un doute. C'est très possible. Les fines rayures, je vous donne ça si un jour vous devez faire de la télé. Les petits carreaux, il faut pas. Les techniciens, ils aiment pas et ça fait mal aux yeux. Et les fines rayures aussi, a priori. Donc voilà. Ça fait télé des années 80. Bah écoutez, j'ai une petite chemise, c'est dimanche. Donc, Patriots, on commence quoi? Par Patriots ou par Texans Bills? Allez, vous voulez commencer par Patriots? On vous connaît. Alors, attendez, pas top la chemise? J'avais peur que ça... Bon, alors, c'est l'heure du striptease. Allez, c'est l'heure du striptease. On va mettre un peu de couleur. On va mettre un peu de couleur dans votre truc, puisqu'en dessous, j'ai un t-shirt vert. Donc, on va faire ça. Bon. Mais non, mais voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé. Vous savez, on est entre nous ici. On se dit tout. Et si ma chemise vous fait mal aux yeux, je préfère que vous me le disiez. Et comme ça, il n'y a pas de malentendu entre nous. Et tout va bien. Regardez ça. Hop là. Bon, mais comme ça... Bon, alors, je la mets dans le décor, mais elle n'est pas gagnée. Je l'aime bien. Donc, voilà. J'ai changé, tout va bien. Ben oui, c'est ça le. C'est pas bon, je sais les. Je le savais en plus qu'il fallait pas que je la mette. C'est pas bon les chemises à fines rayures. Ben ouais, voilà. Bon, on est en t-shirt, on est bien. J'aurais pas froid normalement, on est pas mal. C'est ça, c'est pour montrer mes biceps que j'ai fort gros comme vous le voyez. Donc. Patriots 13, Bills 20. Alors, je vous le dis d'avance, c'est pas, ça va être un peu mon avis et on va débriefer un petit peu ensemble ce match-là. Ça ne vous dispense pas d'écouter le podcast qu'on va mettre en ligne dès demain avec le débrief des matchs des wildcards. De toute façon, il y a un intérêt à écouter le podcast puisqu'il y aura aussi le débrief des deux matchs qui arrivent ce soir. Oui, non, j'ai pas les mêmes braques de Sean Watson. Ça, c'est pas prêt d'arriver a priori. Donc voilà. Donc c'est un peu mon avis, mais on complétera avec Raphaël l'analyse dans le podcast de demain et évidemment avec les autres matchs. C'est vert. Pourquoi The Backer 56, ça pose un problème? C'est bien vert. Moi, j'aime bien le vert. Bon, bref, ça porte malheur, non? Ah, mais il y a pas de fond vert. Si vous pouvez faire des incrustations sur moi, sinon. Bon, on va arrêter le point technique. Et on va passer aux Patriots 13 Titans 20. C'est un drôle de match, moi j'ai trouvé. Si on ne prend pas en compte le fait que c'est les Patriots, j'ai trouvé que c'était un drôle de match parce que j'ai attendu le coup de folie pendant un peu toute la rencontre. Je pensais jusqu'à la fin que les Patriots pouvaient l'arracher. Et parce que, comment dire, il y a l'interception ratée de Logan Ryan. Plutôt dans le match, il y a l'interception de Ryan Tannehill, il y a le fumble de Ryan Tannehill qui recouvre lui-même, et il y a des trucs. Ah, c'est parce qu'il est lyonnais, The Backer, pour le vert, d'accord. Donc je disais qu'il y a des occasions ratées de Tennessee, donc je me disais à chaque fois, il rate une occasion contre les Patriots, tu peux pas rater. Donc voilà, je me disais, il y a un moment où ça va tourner pour New England, et vraiment, évidemment, quand New England récupère le ballon sur ses 1 yard à 15 secondes de la fin, j'y crois plus trop. Mais jusque-là, en tout cas, je me disais vraiment qu'il y avait moyen, il y avait de la place, jusqu'à en tout cas ce drive qu'ils ont à 4 minutes, je crois, de la fin, quelque chose comme ça, 4-5 minutes de la fin, où ils vont pas au bout, ou même pas prendre 3 points, parce qu'ils avaient qu'un seul point de retard à ce moment-là. Du coup, j'y croyais vraiment jusque-là. Je pensais vraiment qu'il y aurait un déclic à un moment, et puis finalement, il n'y a jamais vraiment eu cette d'explosion ou de fun un peu dans ce match. Évidemment, il y a l'interception de Logan Ryan à la fin qui est quand même le point final de la rencontre. Mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait un peu de coup de folie et ça n'a pas été écrasé en tout cas, là-dessus. Après, l'attaque des Patriots est clairement trop courte. Il n'y a pas de secret là-dessus, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et encore, c'est trompeur, c'est-à-dire qu'il marque un touchdown sur le premier, punt et field goal derrière. Donc, en plus, comme il démarre avec deux fois des points sur les trois premiers drives, sur le coup, en plus, je me dis, allez, ça y est, c'est reparti, ils sont partis avec leur... L'attaque va retrouver son rythme, c'est les playoffs, ils nous la font chaque année, il n'y a pas de problème, ça repart, il n'y a pas de souci. Mais franchement... derrière, on a revu l'attaque des Patriots des dernières semaines et en effet, une attaque des Patriots vraiment trop courte et pour des tonnes de raisons. C'est-à-dire que Tom Brady est plus à son niveau d'antan et ça, Raphaël vous en parlera probablement encore mieux que moi demain parce qu'on a déjà un peu préparé. Mais oui, il y a beaucoup de check-down, il y a beaucoup de, il a plus le bras qu'il avait avant, il y a plus le rythme qu'il avait avant, etc. Après, moi, je suis quand même un peu l'avocat du diable là-dessus aussi, mais enfin, même si c'est pas vraiment être l'avocat du diable, mais je trouve qu'il a des circonstances largement atténuantes sur le matos qu'il y a autour. Il n'y a pas un bon receveur vraiment autour. Julian Edelman était limité quand même par des blessures visiblement depuis un petit moment. Ben Watson est le meilleur tight end, il a 37 ou 38 piges. Enkilari est encore un peu vert, il a loupé le début de la saison. Mohamed Sanou arrive en cours de saison. Bon bah voilà quoi, il y a vraiment plus grand chose. Donc il y a une partie des checkdowns de Brady qui sont probablement parce qu'il n'y a plus le temps, il n'y a plus la confiance en la ligne, etc. Mais il y a une partie aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de receveurs auxquels lancer le ballon quoi. Donc et pour le coup ça Raphaël l'avait bien dit dans une des émissions, c'est aussi une des premières années où il n'y a vraiment pas quasiment peu d'options de tight end. On l'a vu d'ailleurs, Ben Watson en a été une dès qu'il a pu. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont joué là-dessus et qui ont joué dans cette défaite. Après, alors vous avez plein de questions là-dessus. Iji nous fallait pas virer Brand. Oui, mais Brand c'est un cassos, donc on peut pas refaire l'histoire. Et Brand c'est pas une excuse pour moi au sens où il était même pas là en début de saison. Il était avec les Raiders en début de saison, donc Brand c'était un super bonus quoi s'il était là et que ça marchait. Le fait est que ce groupe de receveurs il est pas construit et ça on en parlera aussi dans l'émission, mais cette équipe ne sait pas drafter les receveurs. On peut dire ce qu'on veut sur toutes les qualités de Bill Belichick, d'organisation, de machin, de ce qu'on veut. Cette équipe ne sait pas drafter les receveurs. Je me suis envoyé tout l'historique de draft des Patriots ce matin. Il y a deux bons receveurs sélectionnés en 20 ans. Il y a deux receveurs sélectionnés en 20 ans qui ont été productifs chez eux sur la durée. Sinon, c'est une catastrophe. Et ils n'ont pas drafté un receveur productif depuis Julian Edelman en 2009. Donc voilà, à partir de là, les deux seules cibles, après il y a deux tight ends, hein, Gronkowski et Aaron Hernandez, mais en receveur, ils ont un mal fou à drafter correctement. Et il faut aussi, au bout d'un moment, être lucide sur le fait que New England s'est fait très mal avec des mauvaises drafts. Ils ne draftent pas bien depuis un moment. Donc voilà, c'est Et Calvin Johnson dit à raison que Enkil Harris était sa première saison. Très bien. Et pas de bol. Les blessures, c'est pas de bol. Il aurait peut-être été meilleur sans blessure. Ça, c'est la faute à pas de chance. Mais Terry McLaurin, c'est sa première saison. DK Metcalf, c'est sa première saison. Et AJ Brown aussi. Alors, Brown, c'est le contre-exemple parce qu'il fait un non-match hein, sur cette soirée-là. Mais voilà. Et c'est pas que cette saison Enkil Harris. Ça fait 10 ans qu'ils savent pas drafter un receveur. Donc, c'est même pas que Enkil Harris. Donc, voilà. Ça, c'est un des problèmes, à mon sens. Thomas Kenney dit Dion Branch et Edelman, c'est ça, c'est les deux seuls. Dion Branch en 2002, Edelman en 2009. C'est les seuls qui sont productifs sur la durée à New England. Les autres, ils restent jamais très longtemps ou ils font une ou deux bonnes saisons ou maximum. Donc voilà. Et Harry a encore plein de choses à prouver et il y avait peut-être des mecs qui étaient plus prêts. C'est aussi un talent de savoir évaluer ces mecs-là qui auraient pu être prêts plus vite. Mais Amendola, ils l'ont pas drafté. Amendola, ils n'ont pas drafté. Moi, je parle de, si on parle de construire par la draft, etc., ils n'ont pas drafté Amendola. Donc, ils l'ont récupéré, il était à Miami, hein, si je ne dis pas de bêtises avant, comme Wes Welker. Randy Moss, c'était un échange. Ils ont fait des bons coups en récupérant des mecs, mais ils ne savent pas drafter les receveurs. Donc, ça, c'est quand même un problème important. La draft, c'est quand même vital en NFL de faire des bonnes classes de draft. On l'a vu avec les Colts, on l'a vu avec d'autres équipes. C'est hyper important. Donc, je vais remonter un petit peu parce qu'il y a pas mal de questions, évidemment, sur les Patriots. Le problème, c'est qu'on met les Patriots sur un piédestal. Les attentes sont trop hautes, dit Jasvec. Bah, ils s'y mettent tout seuls sur le piédestal. Ils ont 6 titres. Hein. Donc, c'est pas de leur. C'est forcément qu'on attend plus d'eux. D'après vous, les Pats regrettent-ils d'avoir échangé Garoppolo, question de Coro Coppels? Il n'y a pas à regretter ou pas, ça fait 2 ans, ils ne pouvaient pas le payer, le contrat que donnait San Francisco et Tom Brady en même temps, enfin, il n'y a pas de regret à avoir là-dessus, on ne peut pas refaire l'histoire tout le temps. Est-ce que finalement l'absence de Matt Patricia ne se fait-elle pas sentir? Question de Faux 07. Je ne pense pas que la défense soit particulièrement en cause sur ce match. Il limite l'équipe d'en face à 20 points, si tu ne peux pas mettre 20 points en play-off, tu perds, ça ne me semble pas illogique. Évidemment, ils prennent beaucoup de yards au sol, mais derrière, ils prennent rien dans les airs. Donc, c'est aussi un choix au bout d'un moment. Le problème, il est clairement offensif là-dessus. Je pense vraiment pas qu'il y a un souci là-dessus. Alors, je regarde un petit peu s'il y avait d'autres questions sur celui-là. Morgan qui demande si on n'est pas trop déçu de cette première soirée de play-off complètement moisie. C'était pas les meilleurs matchs qu'on ait vus. Ça, il faut le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je remonte, on est pas mal au niveau. Ah, il y a Nicolas qui me fait plaisir. J'ai gagné 80 euros en misant sur les Titans à partir du bon donné par TDA. De rien. Je rappelle, c'est chez Nibet. C'est bon, je suis revenu sur remarque sur mon t-shirt, donc tout va bien. Le Gronk compte pas en cible, Tony Barb, c'est ce que je dis. Hein. On parle de receveurs. Ils ont drafté 2 bons Titan, Gronk et Hernandez, mais les receveurs, nope. Donc le deuxième c'est je parle même pas des vainqueurs. Derrick Henry est quand même énormissime, il faut le dire. C'est un bulldozer, c'est incroyable. Ça a été le néant à la passe parce que il y a 72 yards offensifs, si je dis pas de bêtises, pour Ryan Tannehill. Qui a 2 doigts, encore une fois, je le disais, avec une interception et un presque fumble de puf, voilà. Donc voilà, ils ont appliqué leur plan de jeu. Henry est stratosphérique avec ses 180 yards. Évidemment, il en faudra plus contre Houston. Attention aussi, ils prennent 4,5 yards par course sur ce match. C'est pas rassurant quand tu dois affronter Baltimore la semaine d'après, parce que les Ravens, c'est pas les Patriots au sol. Donc ça aussi, ce sera évidemment à surveiller. Je regarde un petit peu. Alors, Géant Bleu, bizarre tes arguments. D'habitude, tu dis que tu préfères les bons trades que la draft, et là, tu dis que la draft, ils se sont plantés. Donc, alors, oui, je préfère les bons trades pour finir quand tu es candidat au titre. Évidemment, tu joues all-in et tu y vas. Après, d'ailleurs, ils auraient pu essayer de monter des échanges pour récupérer des receveurs. Hein. Emmanuel Sanders, il est parti aux 49ers. Il n'y a pas beaucoup de receveurs qui ont bougé. Je suis en train de me demander si j'en oublie pas, mais Sanders, c'était le principal. Évidemment, les trades de Randy Moss, de Wes Welker et tout, c'est génial. Le problème, c'est que là, ils ont personne d'autre. Donc, au bout d'un moment, en tout cas, il faut les trouver quelque part. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils les ont pas trouvés à la draft et qu'ils sont pas allés les chercher non plus. Donc, ce qui pose problème. Mais je veux dire, évidemment que je suis pour les trades. C'est-à-dire que je suis pour un échange quand tu peux avoir une valeur connue disponible. Mais de toute façon, il faut une base de construction par la draft aussi. Les deux sont complémentaires. Mais évidemment que je suis pour les trades. Si tu as un bon joueur disponible, ça ne me dérange absolument pas de lâcher un choix de draft, et je le dirai toujours. Josh McDaniels, est-il menacé? Alors, Jean-Pierre, ça revient souvent. J'ai lu un peu les commentaires, les choses comme ça. Oui, parce que ça n'a pas été formidable. Après, il a moins de matos que d'habitude aussi. Moi, je veux bien, mais au bout d'un moment, le mec, c'était un génie il y a 3 ans. Là, c'est plus lui, etc. Je ne suis pas persuadé que ce soit le premier fautif. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. C'est-à-dire que, est-ce que le but des Patriots, ça va être de reconstruire? Parce que là, il y a plein d'inconnus. Est-ce que Tom Brady revient? Est-ce qu'il ne revient pas, etc. Si le but, c'est Tom Brady revient, on essaie d'aller chercher un titre, est-ce que c'est un bon plan de changer de système de coordinateur et de système offensif maintenant? Je sais pas. Si Tom Brady ne revient pas et que tu as un nouveau quarterback et que tu repars de zéro, bon, bah oui, tu peux changer de coordinateur offensif. Mais ça, c'est vraiment des choix de jeu. C'est une question. Tac, je suis en train de réussir. Tannehill a réussi une passe décisive en fin de match, mais c'était tout, en effet. Qu'est-ce que je fais si Brady s'en va? Question de Pierre. Bah, je reconstruis. Enfin, je reconstruis. J'essaie de trouver un bon quarterback. Il y a pas 150 solutions, hein, de toute façon. Il faut trouver des cibles, il faut trouver un quarterback. Ce sera un gros boulot, mais ils ont déjà une très bonne défense. Après, Bill Belichick est un coach intelligent. Ce qu'on dit, Brady s'en va, a priori, Belichick reste. Belichick est un coach intelligent. Il basera son attaque sur le jeu au sol, comme il l'a fait quand Brady était un minot. Et voilà, donc... Je vois beaucoup de, comme le dit Calvin Johnson, si Brady s'en va, Rosen ou Frome. Alors Frome, je connais pas, mais enfin je connais pas, j'ai pas étudié, mais oui. Après, faut pas non plus aller dans les fantasmes. Josh Rosen, on a vu à Miami que c'est quand même un peu compliqué, donc pourquoi pas. Pierre, je le trouve où mon quarterback, je le draft ou je l'échange. Ça dépendra des opportunités. Aujourd'hui, on n'est pas au mois de mars, donc je ne sais pas si un tel ou un tel va être signé, si un tel ou un tel va être disponible dans un échange. A priori, pour l'instant, à moins qu'ils aient envie de se kamikazer à essayer de signer Jameis Winston, ce que je ne vois pas vraiment venir, il n'y a pas énormément de bons quarterbacks disponibles sur le marché. Tu ne vas pas signer Philip Rivers qui a 38 piges pour remplacer Tom Brady qui en a 42. Donc, et ce ne serait pas un upgrade. Donc voilà, je pense que tu draftes, a priori. Il n'y a pas moyen qu'il récupère Tua potentiellement, qui descendrait lors de la draft à cause de sa blessure, question de Alan. Oui, mais après, le problème c'est qu'on n'en sait rien. Les joueurs blessés comme ça, c'est un peu un grand mystère. Est-ce qu'il pourrait monter le récupérer? C'est probable, mais là, il peut évidemment se passer beaucoup de choses d'ici au mois de mars pour la Free Agency et d'ici au mois d'avril pour la draft. Là, je veux bien me lancer dans la voyance, mais ça va être un peu compliqué. Hop là. Donc, on va parler un petit peu quand même de ce Texans Bills, parce qu'il n'y a pas que les Patriots dans la vie. Mais encore une fois, c'est forcément un événement. Moi, je ne vais pas vous le cacher, hein, la petite partie businessman qui est cachée quelque part en moi est triste. Hein. Les Patriots, c'est du clic à gogo. Hein. Nous, on voudrait qu'ils aillent au Super Bowl tous les ans sur TDA. Donc voilà. Mais voilà, c'est évidemment un énorme événement quand le champion en titre tombe, encore plus quand c'est une équipe qui a gagné 6 titres. Après, c'est très bizarre. Il y a une ambiance de fin de règne que j'ai du mal à comprendre parce que Brady est en fin de contrat. C'est vrai que lui, il a parlé un peu au passé en conférence de presse. Alors, je ne sais pas, à l'antenne, les commentateurs avaient l'air de parler comme si c'était la fin. Donc, je ne sais pas, est-ce que Tony Romo et les commentateurs de je ne sais plus quelle chaîne à chaque fois diffusent, mais est-ce qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas et que visiblement, il y a des trucs qui se passent? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être une intersaison hyper, hyper intéressante. Après, voilà, les Patriots ont perdu parce qu'ils étaient moins forts que les Titans ce samedi. C'est aussi simple que ça. Texans 22, Bills 19. Alors, match bien laid, qui a confirmé quand même plusieurs choses. Et je fais assez CBS, en effet, merci. Match bien laid. Alors, merci à Javier Pastore, je vais évacuer ça tout de suite. Les Bills se sont fait voler pour l'interrogation, un TD annulé, plus le holding invisible de Ford, mais on va arrêter avec les arbitres tout de suite, il y a des décisions tout le temps, etc. Quand tu perds un match comme ça, comme ils l'ont perdu, c'est pas à cause des arbitres, on va passer là-dessus. Sinon, on va parler des arbitres à chaque match, ça va être interminable. Donc non, c'est pas les arbitres. Le touchdown sur le retour, on va pas non plus raconter des films. Là, on peut faire le mec, on sait très bien qu'il fait pas le retour. Il donne le ballon à l'arbitre. C'est fini. Ce serait de mauvaise foi de dire il faut donner un touchdown là-dessus. Les arbitres sifflent et prennent une décision de bon sens. On va pas non plus chercher la petite bête et dire qu'ils se sont fait voler là-dessus. Franchement, ce serait vraiment, vraiment de mauvaise foi de dire ça, à mon sens. On voit bien qu'il se baisse un peu, il se donne, on voit bien qu'il va pas jouer l'action. Voilà. Le mec qui fait peut-être une connerie, mais bon, ça va. Ce serait vraiment. On peut pas se plaindre au bout d'un moment que l'arbitrage vidéo fait ceci ou cela et puis ceci ou cela. Là, c'est une décision de bon sens. Pour une fois qu'un arbitre NFL prend une décision de bon sens, on va pas leur reprocher. Donc franchement, non. Donc ça, voilà. Et le holding, les holdings, les machins. Il y en a toujours un. Sinon, ça aurait été un roughing the passer, ça aurait été un petit une zone neutre, un delay of game, un machin. Il y en a toujours. Est-ce que les Bills ont perdu à cause de ça? Non. Les Bills ont perdu parce qu'ils menaient 16-0 et qu'ils n'ont pas été foutus de tuer le match. Voilà. À mon sens, c'est à peu près ça. Donc, ils n'ont pas été... Mais parce que vous êtes plein à le dire, Bill O'Brien est une pipe. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que que j'excuse pas les arbitres ou machin des Bills. Les Bills perdent parce qu'ils sont pas capables de tuer le match face à une équipe qui est sans la moindre imagination en attaque. Les Bills mènent 16-0. En face, il n'y a rien qui se passe et eux sont pas capables de tuer le match. Donc, c'est ça, je veux dire, le truc. Et c'est pour ça que je disais que ce match a confirmé plusieurs choses. Un, Deshaun Watson est capable de choses incroyables. On le sait. Deux, Bill O'Brien ne sait pas comment l'utiliser correctement, ou en tout cas pas le mettre en valeur, parce qu'en fait, on donne le ballon soit aux coureurs qui foncent dans le tas, soit on donne à Deshaun Watson et on lui dit « Allez, démerde-toi !» Voilà, donc c'est ça l'attaque des Texans, voilà, c'est une bouillie de football, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de philosophie, il n'y a rien. Voilà. Donc Houston gagne, pourquoi ? Parce qu'ils ont les meilleurs playmakers sur ce match, et que dans un match comme ça, bah, ça peut se jouer là-dessus, dans un match de play-off serré entre une équipe vaillante mais moins talentueuse et une équipe talentueuse mais mal coachée. Bah, pour le coup, c'est l'équipe talentueuse mais mal coachée qui s'en sort parce qu'ils ont un Deshaun Watson, ils ont un Watt et un Mercilus qui provoquent 2-3 trucs. Mais évidemment que Bill O'Brien, c'est dur à regarder, quoi. C'est très très dur. Et donc la dernière chose, la troisième chose que pour moi ce match confirme, c'est que Josh Allen n'est pas un produit fini, loin de là. Le quatrième carton, c'est un désastre. C'est Jameis Winston réincarné dans un maillot des Bills, quoi. C'est-à-dire que il y a des lancers hasardeux, mais vilains, terribles. Et puis il y a cette latérale. Mais alors il y a un court-circuit là-haut. Et cette latérale, c'est pareil, c'est un miracle qu'il ne soit pas puni. C'est un miracle qu'il ne soit pas puni. Voilà. Et voilà, Flo07 dit qu'il n'a pas de receveur. Là, ce n'est pas une question de receveur. Hein. Quand tu fais des lancers comme ça et que tu débranches sur la latérale comme ça, ce n'est pas une question de receveur. C'est terrifiant. Mais c'est ça, la schistera de Allen, dit Ch'ti Nordique. Donc voilà. Est-ce que, comme dit Lolo, il s'est déjà vu au prochain tour des playoffs, il est un peu déconnecté. Moi, je pense juste que c'est un quarterback qui est très irrégulier encore. Il est à peine à un peu plus de 50% de passes complétées. On a vu le meilleur quarterback émerger au meilleur moment dans ce match. Deshaun Watson est le meilleur quarterback sans l'ombre d'un doute dans ce match. Donc voilà. Encore une fois, évidemment, il y a des motifs du positif hein, là-dedans. Une question de Gus. Évidemment qu'il y a du positif. C'est une très bonne défense, c'est bien coaché. Pour le coup, eux, il y a une philosophie de jeu, c'est-à-dire qu'ils jouent au sol, ils essaient de distribuer. Et je leur souhaite que Josh Allen progresse. Ça m'embête d'employer ces termes-là, mais j'espère qu'ils ne vont pas... En fait, Josh Allen, c'est le moment où il doit prouver qu'il n'est pas un Blake Bortles ou un Mitch Trubisky. Je ne dis pas qu'il l'est, je le précise. Je dis qu'il doit prouver qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il a une bonne équipe autour de lui, il a une belle défense autour de lui, il doit prouver qu'il peut les porter loin. Bortles n'a pas réussi, Trubisky n'a pas réussi pour l'instant. À Josh Allen de prouver que lui peut faire ça. Je ne suis pas des plus convaincus. Quel est son plafond de nom de pierre ? C'est une très bonne question. Je ne vais pas prétendre le savoir. Je ne suis pas hyper... C'est seulement sa deuxième saison, etc. Mais je trouve, pour moi, en tout cas, il ne montre pas assez de choses rassurantes pour que j'y croie vraiment. Peut-être qu'il me fera mentir, mais voilà, je n'y crois pas énormément. Et après, encore une fois, pour finir sur ce match, moi, je vous le dis, hein, on inverse les coachs. Vous donnez Deshaun Watson à Sean McDermott, il n'y a pas match. Hein, Bill O'Brien, il se fait... Voilà. Mais voilà, donc il sait... C'est un match qui est gagné sur les playmakers, à mon sens, et il n'y a pas de... Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de... comment dire... Il n'y a pas de... Alors, je vois, évidemment, l'arbitrage... Pas l'arbitrage, mais le coaching, etc. Il y a eu des mauvais choix, évidemment, mais ça arrive à tout le monde. Mais les joueurs... Encore, regardez Deshaun Watson, de quoi il arrive à sortir, quoi. Donc voilà, Josh Allen a des signes inquiétants. On va voir... Quel Loïc qui troll un peu, je crois, qui dit... Ah ben voilà, il a même retiré son message. Ah, je ne le lirai pas. Ce serait... Il insinuait que les Bills pourraient récupérer un autre... un autre quarterback. Bon, voilà pour les deux matchs de la semaine. Et puis justement, tiens, je sais que Loïc est supporter des Eagles. On va parler un peu des Eagles parce que ça joue ce soir. Ça joue contre Seattle à 22h40. Et oui, ne l'oubliez pas. J'ai vu quelqu'un mettre, je crois que c'était sur Twitter, le Injury Ball. Ouais, c'est un peu ça. Le Injury Ball. Donc, on a parlé des deux matchs d'hier soir. Je vous l'ai dit, on débriefera encore plus en profondeur avec Raphaël dans le podcast de lundi. Ça me permet de faire du teasing. Alors, et si durant l'intersaison, les Bills récupéraient un quarterback d'expérience qui connaît bien la division, dit Loïc. Voilà, donc il parlait de Tom Brady. Donc, il avait fait une typo, il est consciencieux. Donc, je le disais, on a parlé des deux matchs d'hier, n'hésitez pas à mettre encore des questions. On va parler maintenant du thème de la semaine, les parcours improbables en play-off. Alors, qu'est-ce que j'entends par parcours improbable en play-off ? Déjà, je me suis limité aux 20 dernières années, histoire d'avoir quelques souvenirs, parce que je vieillis. Et je parle de ces équipes qualifiées au raccro ou qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire des équipes qui n'étaient pas favorites dans les play-offs, qui ont joué les wildcards. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais sauf une. Toutes sauf une. Toutes sauf une ont joué les wildcards. Donc, les parcours les plus improbables en play-off. Évidemment, les cannes et prothèses sont autorisées en NFL, question de Sébastien. Je ne crois pas. Je vais prendre un petit peu d'eau, si vous m'excusez. Non, parce que... Allez, je fais l'instant, je raconte ma vie en avance. Hein. Mais tout le monde est blessé à ce stade de la saison, on dit en NFL. Je vous jure que je joue ce fauteuil avec une infection dentaire et un dos qui se débloque à peine après 2-3 jours de souffrance. Donc là, je donne tout pour vous. Donc, le thème de la semaine, parcours improbable en playoff. On va pas aller loin pour commencer le premier. On va s'échauffer parce que je suis en vert et parce que on parle.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Les Eagles qui jouent ce soir. Philadelphie 2017-2018, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Il y en a qui découvrent la NFL cette année, il y en a qui regardent le football peut-être pour la première fois, et bienvenue à toi, auditeur. Philadelphie 2017-2018, donc saison 2017, playoff 2018, c'est pas le bilan qui est la plus grosse surprise, parce qu'ils sont à 13 victoires, 3 défaites en fin de saison régulière, il faut pas l'oublier quand même. Hein. 13 victoires, 3 défaites pour cette équipe, qui est très complète, mais Carson Wentz se blesse en semaine 14, et là, on les donne un peu pour mort. C'est pas très loin, donc je m'en rappelle assez bien. Même le présentateur est blessé, je vous jure. J'ai trop mal. Foles fait un premier très bon match après avoir récupéré. Donc, c'est Nick Foles hein, qui prend la place. Il fait un premier très bon match à 4 touchdowns après avoir récupéré la place de titulaire, mais personne n'est rassuré. Ils battent Atlanta au premier tour des playoffs, mais 15 à 10. C'est défensif. Encore une fois, ils sont complets. Mais derrière... On rappelle un Nick Foles quand il prend la place à ce moment-là, c'est un peu une énigme. Il a fait une très bonne saison à Philadelphie il y a longtemps à l'époque. Il est allé ensuite à Kansas City, aux Rams. Il a failli arrêter le football. Il est revenu à Philadelphie. Et en finale NFC, il joue les Vikings. Match serré. De mémoire, on avait dû avoir des pronostics assez partagés. Et là, 38 à 7, c'est un carnage cette finale NFC. Et ils vont au Super Bowl. Super Bowl, ils jouent les Patriots. Patriots qui donc, ont battu les Falcons l'année d'avant. Et après avoir limité les Vikings à 7 points, après avoir limité les Falcons à 10 points, là on a tout le contraire, match ultra offensif, plus de milliards en cumulé, record pour un Super Bowl. Je me demande si c'est même pas le match de l'histoire de la NFL où il y a le plus de yards, j'espère que je ne dis pas de bêtises. 41 à 33 pour eux. Le Philly Special en attaque, la folie totale, un staff Doug Peterson, Frank Reich qui est devenu le head coach des Colts ensuite, qui voilà, énorme staff. Donc énorme surprise que ces Eagles de 2017-2018, on l'a dit, pas tant par le bilan, mais par la fin en fait, d'avoir perdu Carson Wentz qui était quand même en mode MVP hein, à l'époque. Et un homme nu dans Nantes, rappelle Loïc, en effet, qui à l'époque avait parié qu'il se baladerait sans vêtements dans sa ville, et il l'avait fait. Il nous avait envoyé une photo témoin. Le deuxième parcours, c'est celui des Giants 2007-2008. Évidemment, vous avez été plusieurs déjà à le mentionner, si je ne dis pas de bêtises. Giants 2007-2008, ils sont tête de série numéro 5, mais il y a aussi des signes. Pourquoi ? Ils ont 7 victoires à l'extérieur de suite avant d'aborder les playoffs. Ça ne veut pas dire 7 victoires de suite. Hein. Ils ont perdu le dernier match de la saison régulière contre les Patriots, justement. Mais ils ont 7 victoires de suite à l'extérieur. Ça tombe bien parce qu'ils sont tête de série numéro 5 et qu'il faut voyager. Et c'est là où le parcours est assez exceptionnel. C'est qu'en effet, il y a victoire à l'extérieur à Tampa, victoire à l'extérieur à Dallas. Et derrière, ils vont en prolongation au Lambeau Field de Brett Favre à l'époque. Je me demande si ce n'est pas la dernière saison de Brett Favre à Lambeau d'ailleurs. En prolongation, évidemment, interception de Brett Favre, parce qu'il a lancé beaucoup de touchdowns, mais il a aussi lancé beaucoup d'interceptions. Et donc, victoire dans un froid polaire. Je ne sais plus combien il faisait, mais c'était un match très, 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 très froid. Et victoire pour accéder au Super Bowl. Au Super Bowl, ils ne sont pas favoris, évidemment, puisqu'ils jouent les Patriots, il y a un point commun entre ces histoires. Ils jouent les Patriots, évidemment, invaincus, 16 victoires, 0 défaites en saison régulière, des victoires en playoff contre les Jaguars, et je ne me rappelle plus qui sortent en finale de conf. Ils jouent les Jaguars en divisional, et j'ai un trou sur la finale de conférence, mais ils passent juste aussi de mémoire. Bref, les Jaguars donc et ensuite la finale de conf et ils sont en playoff invaincus et ils tombent donc contre ces Giants. Masterclass au Super Bowl, possession du ballon, pression sur Tom Brady, touchdown décisif et le helmet catch, évidemment action monumentale d'Eli Manning qui entre, peut-être les Colts mais je suis pas sûr, qui entre au Panthéon évidemment de la NFL, un parcours encore une fois complètement dingue. J'en ai un qui est dans mes parcours dingues, mais sans être une victoire au Super Bowl. C'est le seul sur les 5 que j'ai pris. Il y a 3-4 victoires au Super Bowl, bien sûr, et une qui ne se termine pas par une victoire. Mais il fallait en parler parce que là, au royaume des victoires et des parcours en playoff improbable, je pense que celui-là, il se pose très très haut. C'est celui des Cardinals 2008-2009. Et qui sont l'exemple parfait, c'est les Chargers à San Diego, la finale de conf, bien vu Don SNG. C'est les Cardinals donc, de 2008-2009 qui sont, je le disais, l'exemple pourquoi je ne veux pas changer le système de playoff. Ils s'étaient fait exploser 47-7 par les Patriots en semaine 16. Ils sont à 9 victoires, 7 défaites en fin de saison et gagnent une NFC West qui à l'époque est naze. Et pourtant, en playoff, c'est incroyable, la résurrection de Kurt Warner à 38 ans, comme le dit Nicolas sur le chat. Victoire 30-24 sur les Falcons au premier tour. Victoire 33-13 face aux Panthers dans un déluge d'interceptions en divisional. Les Eagles d'Andy Reid en finale NFC, Andy Reid et Donovan McNabb, 32-25, victoire d'Arizona. Et un Super Bowl somptueux perdu de justesse contre les Steelers. Alors, il y a Kurt Warner, mais voilà, et Mathéo le dit bien, quelle équipe avec un Fitzgerald monumental. Je vous ai pris les stats et je vous laisse vous régaler. Les 4 matchs de play-off de Larry Fitzgerald. 4 matchs de play-off. Premier match, 6 réceptions, 101 yards, 1 touchdown. Deuxième match, 8 réceptions, 166 yards, 1 touchdown. Troisième match, 9 réceptions, 152 yards, 3 touchdowns. Ça, c'est en finale NFC. Et au Super Bowl, 7 réceptions, 127 yards, 2 touchdowns. Donc le mec fait 101, 166, 152, 127. Il était intenable, Larry Fitzgerald, sur cette phase de playoff. C'était légendaire. Ça aurait été beau que ça aille au bout, parce que c'était franchement probablement la victoire la plus improbable de l'histoire, avec un Kurt Warner à 38 piges, un Fitzgerald en feu, et cette équipe, encore une fois, qui sortait de nulle part. Je pense que... Et il a fallu en effet le pick-six de Harrison, Dijti Nordic, cette interception qui tue complètement Arizona juste avant la mi-temps, retournée sur 100 yards par James Harrison. Une action de légende sur un Super Bowl de légende, la réception de Anthony Holmes à la fin, enfin, un match complètement dingue. Ravens 2012-2013, c'est notre quatrième. 10 victoires, 6 défaites. Ils sont vainqueurs de l'AFC Nord, quand même. Mais, ils ne sont pas attendus comme favoris, loin de là. Hein, on ne va pas se mentir. Parce qu'à l'époque, il y a quand même les Patriots de Tom Brady et les Broncos de Peyton Manning dans la division, dans la conférence. Excusez du peu. Ce qui est complètement dingue, c'est que les Ravens de Joe Flacco, à l'époque, vont battre ces deux équipes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas bénéficier d'élimination et d'un parcours. Non, ils vont sortir Tom Brady et Peyton Manning. Ils ont la 16e attaque, la 17e défense au début des playoffs. Ce n'est pas la folie. Et pourtant, il se produit un truc fou. Ray Lewis fait son jubilé. C'est sa dernière saison. Il met le feu à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Il y a une vibe complètement incroyable qui se dégage. Alors, je ne sais pas si je suis biaisé par ça, mais à l'époque, je connaissais quelqu'un à Baltimore et qui disait que dans la ville, voilà, ils avaient fait une parade pour leur souhaiter bonne chance quand ils sont partis pour leur match à l'extérieur. Enfin, il y avait une sorte de vibe assez incroyable. Et donc, évidemment, ce qui est aussi exceptionnel, c'est que Joe Flacco prend feu. 4 matchs, 1140 yards, 11 touchdowns, 0 interception, 117.2 d'évaluation. Ils battent les Colts 24-9 au premier tour, Colts Andrew Luck. Hein. Divisional, Broncos 38-35 en étant mené 4 fois, en égalisant à 31 secondes de la fin sur un touchdown de 70 yards et victoire en prolongation. Sur Wikipédia, ça s'appelle le Mile High Miracle, c'est le miracle à 1 mile d'altitude puisque c'est l'altitude de la ville de Denver. Donc déjà, voilà, touchdown de dingue, bon, petit trou en couverture de Denver, mais c'est comme ça qu'arrivent souvent les touchdowns de dingue. Et finale de conférence, victoire à New England, 28-13, 3 touchdowns en deuxième mi-temps pour Joe Flacco. Donc déjà là, on est quand même dans le level assez dingue. Et au Super Bowl, Joe Flacco est chaud, 3 touchdowns dès la première mi-temps, avant la coupure d'électricité. Derrière, ça résiste au retour de cette équipe des 49ers, à l'époque en effet menée par Colin Kaepernick et Jim Harbaugh qui affrontait son coach de frère au Super Bowl. Et voilà, Joe Flacco est élite. Enfin, c'était un truc de dingue à cause de ses playoffs. Il décroche un énorme contrat, etc. C'était quand même assez fou. Le cinquième choix dans ce thème. Désolé, j'arrête d'en parler, Omar. On parle plus de cette défaite des Broncos. Le cinquième choix, c'est les Patriots. On va leur rendre hommage, justement, puisqu'ils ont joué cette nuit. Les Patriots de 2001-2002. Alors, c'est pareil, c'est un peu comme Philadelphie au début. Ils sont à 11-5 et ils ont une semaine de repos. Donc, ils sont pas ils viennent pas totalement de nulle part dans cette saison, mais ils jouent, alors, je sais pas si on peut dire encore leur remplaçant, parce que Tom Brady avait pris le pouvoir en septembre suite à la blessure de Drew Bledsoe, mais ils sont quand même menés par Tom Brady, qui à l'époque n'est pas Tom Brady multiple MVP, multiple MVP du Super Bowl, multiple bague. C'est Tom Brady, 18 touchdowns, 12 interceptions cette saison-là. Donc, c'est encore un petit Tom Brady tout jeune. C'est une équipe de jeu au sol et de défense, c'est pas une équipe de Tom Brady. Donc, les Raiders et les Steelers, dans cette conférence, à ce moment-là, sont considérés comme meilleurs. Les Rams, de l'autre côté, je n'en parle même pas. Ils sont bien plus cotés. Ils ont un Kurt Warner qui a été MVP, un Marshall Faulk qui a été MVP. Ils déroulent de tous les sens. Bon, voilà. Et pourtant, ils battent les Raiders 16-13 avec la Tuck Rule. Bon, ils ont eu du bol, la Tuck Rule. Voilà. Bon, les Steelers vont s'occuper d'eux. D'autant que Tom Brady se blesse dans le match. Drew Bledsoe doit revenir en jeu. Pareil, en termes de dramaturgie, après la Tuck Rule, la blessure de Brady, le Drew Bledsoe qui doit revenir en jeu alors qu'il s'était fait prendre sa place suite à une blessure au mois de septembre, incroyable. Drew Bledsoe les mène à la victoire et les envoie au Super Bowl. Qui va jouer le Super Bowl? Est-ce que Drew Bledsoe garde? Est-ce que Tom Brady est remis, etc. Tom Brady est là, il est prêt. Les Rams sont favoris de 14 points. De 14 points chez les bookmakers. 2 touchdowns d'avance. On donne les Patriots perdants, ils ont une bonne défense, bon, d'accord, mais ils ont un bon jeu au sol, bon, ok, mais ils ont ce petit quarterback-là face à Kurt Warner, MVP, Marshall Faulk, MVP, bon, ils vont rien faire. Et pareil, un peu un Giants inversé, masterclass, on les attend pas, grosse défense. Les Rams font rien pendant trois quarts-temps. Et puis, sans froid, à la fin du match, drive de Brady pour aller mettre Adam Vinatieri en position, field goal de la gagne, Super Bowl. Pour les Patriots, c'était quand même un truc complètement inattendu. À l'époque, c'est une des plus grosses surprises de l'histoire du Super Bowl. Il faut situer ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont découvert la NFL récemment et qui ont connu la dynastie Patriots et qui voient tout ce qui se passe avec leur chute ces dernières heures. À l'époque où ils gagnent leur premier Super Bowl, c'est eux Cendrillon, hein. C'est vraiment eux l'histoire complètement dingue de la NFL, et je ne saurais pas le situer par rapport aux équipes qui sont en playoff à l'heure actuelle, mais ouais, c'est une équipe avec un jeune quarterback, c'est les Eagles de Carson Wentz, et encore même pas, parce que Wentz il a déjà l'expérience, on l'a déjà vu jouer à très haut niveau, donc il n'y a même pas d'équivalent dans la NFL d'aujourd'hui. C'est si les Bills avec Josh Allen est allé au bout. Voilà. C'est les Bills de Josh Allen. Parce que là, Lamar Jackson, il va être MVP. Donc les Ravens, c'est pas vraiment comparable. Brady n'est pas du tout MVP à ce moment-là. Donc non, c'est les Bills avec Josh Allen qui serait allé au bout là. Grosse défense, jeu au sol, quarterback jeune. Bon, voilà. Un peu dans le genre. C'est pas une comparaison parfaite. Et encore une fois, je pense pas qu'on puisse comparer les Texans non plus, parce que Deshaun Watson est plus coté et a fait plus de preuves que Brady à l'époque. Sans oublier que Deshaun Watson est un choix du premier tour, pas du tout Brady, qui vient de nulle part, hein, quasiment. Donc voilà pour les parcours les plus dingues en playoff. J'aime bien ce genre de petit thème, on fait un petit peu d'histoire. C'est toujours sympa, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Maintenant, on va parler un petit peu, donc questions. Derrière, on va faire petite présentation pronostique des affiches de ce soir, parce qu'il faut quand même aussi en parler. Il n'y en a plus que deux. Avant, j'avais plein de pronostics à faire, mais là, il y en a de moins en moins. Donc les pronos, les questions, les cotes, qu'est-ce que je... Bon, il y a déjà pas mal de choses, il y a un petit frometon là qui est pas mal, alors j'ai mal aux dents, mais je vais serrer les dents, c'est pas grave. Donc, je le disais, les affiches de ce soir, il est 18h44, c'est bien, on est dans les temps, on est bien ce soir. Je suis en train de regarder, tiens, il y a déjà les cotes pour le Divisional Weekend sur Unibet, si vous voulez jouer. Et alors, si vous croyez aux Texans et aux Titans, je vous conseille de courir chez Unibet tout de suite, parce que les cotes sont énervées. Hein. 4,25 pour les Titans, 4,25 pour les Texans en ouverture, donc vous pouvez y aller. Franchement, là, si vous croyez en ces équipes, sincèrement... 4,25 pour les Titans, 4,25 pour les Texans, donc vous pouvez y aller. Est-ce que je fais le mois sans alcool, question de fausse recette? Non, j'ai vu que le gouvernement avait tenté d'étouffer ça, visiblement les viticulteurs ont du pouvoir, mais non, j'ai bu un peu de vin blanc ce matin, donc non. Alors, hop, sur quelle décision arbitrale vont se faire voler les Saints, dit Chargers? Oh, c'est dur, mais oui, ils ont vraiment pas de chance. On en a parlé dans l'émission preview jeudi, là. Là, ils ont vraiment pas de bol. Une tête de série numéro 6 a-t-elle déjà gagné le Super Bowl? Question de Jazz Luck. Oui, et évidemment ça va me sortir de l'esprit, mais il y en a au moins deux, parce que j'ai vu le chiffre ce matin, et peut-être un troisième. Les Ravens sont 5, les Giants sont 6 l'année où ils vont au bout, je crois, en 2007-2008. J'ai un trou, mais sûr. Tony Barr, un petit blanc à 9h, comme tous les week-ends. Alors. Non, je vous jure, c'était... Mais c'est parce que j'ai... Alors, pour tout vous dire, j'ai fait une sieste pendant le Texan, parce que j'étais chargé du Patriots Titans, donc j'ai dormi de 22h à 2h du matin. Et après, je me suis pas recouché, donc j'ai enchaîné et je vous jure, j'ai pas. Non, je me suis fait un grand café et du pain perdu. J'ai mis la photo témoin sur l'Instagram du site, c'était très bon. Non, le vin, ça a attendu midi et demi, 1h, promis. Mais vraiment un tout petit fond parce que je suis déjà déshydraté et fatigué et en plus j'ai mal au chicot, donc j'en peux plus. C'était vraiment juste pour avoir le goût. Packers, Steelers, ouais, voilà, il y en a quelques-uns. À 9h, il dort. Non, mais je vous jure, je me suis pas endormi. Donc, brioche perdue, pain perdu, sachez-le. Oui, mais alors, Raphaël, je suis d'accord avec toi. C'est juste que j'avais que du pain et j'avais la flemme de sortir. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Pour vous dire, j'ai même fait un pain au chocolat perdu parce que j'avais un pain au chocolat d'hier qui était un peu sec. Et c'était pas mauvais. Je me suis pris pour un Américain qui faisait frire tout ce qu'il trouvait dans sa cuisine. C'était pas mal, c'était pas mal. Mais oui, sinon je suis plus brioche que pain perdu aussi. Donc, les matchs de ce soir, Vikings-Saints. Bon, les Saints sont évidemment favoris. Ça se traduit dans les cotes. 1,25 pour les Saints, 3,75 pour les Vikings. On en a parlé dans les previews. Moi, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment l'impression que les deux équipes sont assez complètes. Il y a du pass rush des deux côtés, il y a des receveurs des deux côtés. Il y en a un très fort avec Michael Thomas d'un côté, mais t'as Adam Thielen et Stephen Diggs de l'autre, donc c'est pas mal. Il y a du jeu au sol des deux côtés. Il faut espérer que Dalvin Cook revient à son meilleur niveau. Ceci étant dit, j'ai vraiment l'impression que New Orleans fait tout un peu mieux. Ils sont un peu mieux coachés, ils ont un meilleur quarterback, ils ont le meilleur receveur, ils ont une défense solide. J'ai vraiment l'impression qu'ils font tout un peu mieux. Donc clairement, les Saints pour moi dans cette opposition. Et puis le deuxième, donc le fameux Injury Bowl qui se déroule à Philadelphie ce soir à 22h40. Alors là, pouf, Unibet, je vais vous dire, ils vous ont gâté. Si vous croyez aux Eagles, mettez les Eagles. Si vous croyez les Seahawks, mettez les Seahawks parce que les deux sont à 1,88. Les cotes sont exactement les mêmes au moment où je vous parle. Donc pourquoi les cotes sont si similaires ? Moi, je serais tenté de dire, alors c'est pas moi qui les ai faites, hein, mais je serais tenté de dire que Philadelphie est à domicile, ce qui en général donne un petit peu d'avantage, mais c'est compensé par le fait qu'ils ont énormément de blessures. Zach Ertz apparemment joue, il faudrait presque faire un point des blessures détaillé de 10 minutes avec cette équipe, mais apparemment Zach Ertz joue. Miles Sanders, j'ai pas les inactifs d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat parce que je peux pas faire l'émission et avoir les inactifs qui viennent en même temps. Degan dit qu'il croit encore aux Eagles. Le truc, c'est que les Eagles, j'ai pronostiqué les Seahawks, mais je ne vais pas me permettre de les enterrer après ce qu'ils ont fait ces deux dernières années, quoi. Donc voilà. C'est évidemment, je pense qu'avec Russell Wilson, avec le matos qu'ils ont dans les airs, surtout face au cornerback de Philadelphie, même s'il y avait un peu de mieux en fin de saison, ça donne l'avantage à Seattle. D'autant que la ligne, c'est vrai que ça souffle sur la ligne, il y a Len Johnson qui traîne la patte, Brandon Brooks qui est à l'infirmerie, c'est compliqué. Il y a Saturn tiens, qui dit justement les matchs en streaming sur Unibet, le plein écran c'est sur tablette et mobile. C'est sur tablette et mobile, sur desktop c'est un plus petit player, mais c'est normal. Mais encore une fois, n'hésitez pas, c'est un bon moyen de voir les matchs quasiment gratuitement. Il faut avoir juste un compte crédité sur Unibet. Et qu'est-ce que je pense d'Alvin Kamara, marqueur de touchdown ? C'est pas mal. C'est jamais un mauvais plan, même s'il n'a pas été au même niveau un peu stratosphérique, mais ça commence à aller mieux en fin de saison. Tout le monde va mieux en fin de saison. Alors, Michael Thomas à 1,65, Alvin Kamara à 1,68. Honnêtement, un Alvin Kamara dans ce genre de match. Après, Dalvin Cook est à 1,95 parce qu'il est blessé. Et je pense que ça fait monter la cote sur l'incertitude. Jared Cook à 2,38, c'est plutôt un bon plan. Il fait une bonne fin de saison. Latavius Murray à 2,55, si vous êtes joueur, c'est pas mal parce que ça alterne bien aussi. Moi, je jouerais plutôt Jared Cook ou Latavius Murray. Si je devais mettre un petit billet là-dessus. Ouais, je pense que c'est pas mal. Lacon Treadwell, homme du match, qu'est-ce que j'aimerais bien. Tiens, une question de Gus, qu'est-ce que je pense de l'attitude de Jerry Jones vis-à-vis de Jason Garrett? Je pense que c'est délirant encore ce qui se passe à Dallas, mais qu'on ne devrait jamais être étonné que ce soit délirant ce qui se passe à Dallas. Apparemment, il est en fin de contrat le 14 janvier, donc ils ont dit, bon, on dit rien, on va laisser son contrat s'évacuer, on fait passer des entretiens d'embauche aux autres. Je trouve ça assez dingue. Après, ceci étant dit, l'idée de Mike McCarthy, pourquoi pas Mike McCarthy, mais après oui, l'attitude de Jerry Jones c'est vraiment bizarre. Dites que vous le reconduisez pas et puis merci, au revoir, quoi. Qu'on me dise pas c'est normal de dire rien, il laisse terminer son contrat. On a le droit à des conférences de presse depuis deux semaines de gens qui disent oui, ce mec qui est sous contrat avec nous pour encore 3 ans, on le garde. Bon, tu peux faire un communiqué pour dire que tu vas pas prolonger, même si c'est un communiqué de 3 mots, quoi, franchement. Hunter Renfrow a pris plus de milliards la saison prochaine. Ah, la Treadwell est inactif, malheureusement pour moi. Ah, j'adore ce joueur. Allez, on va faire un petit combiné de cotes, hein, du coup. Et je vais vous dire une sécurité. Tiens, ça a changé. Eh ben, regardez ça. Ça m'arrange parce que la cote que je voulais jouer vient d'augmenter quand j'ai actualisé ma page. Donc comme ça, ça c'est top. Les Seahawks sont désormais à 1,90. Ça veut dire que les Eagles sont favoris à 1,85 hein, chez Unibet. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc je vous conseillerais plutôt d'aller en profiter. Et puis on en met une un peu moins justement audacieuse. On va mettre les Saints à 1,25. Moi, c'est mes deux cotes de ce soir. C'est les Saints à 1,25, les Seahawks à 1,90, ce qui nous fait, allez, on va mettre 10 sur ce combiné-là, puisqu'il n'y en a que deux. N'oubliez pas que vous avez le cash out, hein. Si vous voyez que ça tourne mal, vous pouvez retirer une partie de votre mise sur une Unibet. Hop là, 10 euros misés, et ben ça permettra de faire un peu plus que doubler la mise, donc c'est pas mal. 10 euros misés, 23,75 euros de gains potentiels chez Unibet. Ouais, le TD de Marshall Lynch, pourquoi pas, mais... Moi, je suis pas hyper. Je suis pas hyper convaincu par ce retour. Donc, on verra bien. Et puis, pour les marqueurs de touchdown, je vous ai dit, Latavius Murray et Jared Cook sont tous les deux à plus de 2,30. Donc, ça se joue. Je le disais, donc, pour le Sweat Unibet, qui est notre partenaire, n'hésitez pas à partager l'émission sur Twitter avec le lien que je vous ai donné. Ah oui, les écarts, c'est pas bête. Si vous voulez faire grimper la cote des Saints, tiens, si on fait monter un petit peu, si on veut faire grimper la cote des Saints, allez, si vous voyez une victoire des Saints, mais de moins de 4 points, ou 4 points maximum, ouais, moi, je vois un peu plus. Je vois un peu plus, honnêtement. Allez, les Saints de 6 ou plus, 1,52. Les Saints de 6 ou plus, 1,52. Moi, ça se joue tranquillement, ça. Ça se joue tranquillement. Donc, ouais. Et après, parce qu'après, les Saints de 8 ou plus, vous êtes à 1,70. Donc, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Les Saints de 8 ou plus, à 1,70. Ça me tente pas mal aussi. Allez, on va terminer avec quelques questions. N'hésitez pas à envoyer des questions. RT blessé ou pas, du coup, question de Charles Rouze. Je vais regarder en même temps que je vais essayer de trouver les inactifs, encore une fois. Je suis pas sûr de les avoir sous la main en même temps que je vous parle, parce qu'ils tombent un petit peu. Hop là. Au dernier moment, non, j'ai pas les inactifs sous les yeux. Si vous les avez, n'hésitez pas à le dire. Normalement, ils devraient être donnés à cette heure-là. Mais Hertz joue aux dernières nouvelles, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a ? On va faire le frometon, parce qu'il est 18h54. Hop là. On va faire un petit peu de fromage. Derrière, on fera vos questions et on se dirigera tranquillement vers le match. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le fromage. Alors, retour aux sources. Parce que quand on a mal aux dents, il faut se consoler avec des valeurs sûres. La vache, ça sent très très bon. Allez, hop là. Comme il y a Raphaël qui regarde. Alors, c'est pas l'Italie, mais c'est ce qui se rapproche le plus chez nous. C'est la Corse. C'est une Tom Corse. Alors, est-ce qu'elle est un peu surexposée ? Bon, on va voir. Tom Corse, brebis chèvre. Voilà, comme ça, là, on est pas mal. Une bonne petite Tom Corse. Elles sont très, très bonnes. Et j'en ai mangé un petit peu avant. Et c'est un délice, ça. Il y aura un joueur mystère durant les playoffs, demande Nicolas. Donc, je le disais, le joueur mystère, on se retrouve au Super Bowl. Il y aura un joueur mystère au Super Bowl, mais avec une plus grosse cagnotte tout d'un coup. Oui, elle est très belle, cette Tom. Avec un petit peu de vin, peut-être, ça devrait être pas mal. Après, si vous voulez faire le mois sans alcool, n'hésitez pas, c'est une bonne idée aussi. Hein. Oui, Clou Girof, on me l'a dit. Merci, All for Saints. C'est vrai que j'ai pas encore fait, mais il faudrait que je fasse. Et donc, le vin avec modération, bien évidemment. Dernière saison pour Breeze. Alors, par contre, juste une question, All for Saints, parce que t'es pas le seul à m'avoir parlé de Clou Girof aujourd'hui. Il faut prendre des vrais clous de girofle et se les frotter sur la gencive ? Ça se passe comment ? C'est une vraie question. Comment ça se passe ? Programme des podcasts post-Super Bowl, question de Higinou. Alors, déjà, arrivons jusqu'au Super Bowl. Je vous jure, on a plein de boulot. Et après, on va s'y mettre... Non, mais alors, le dentiste, c'est fait. Hein, c'est programmé, mais ça va prendre plusieurs séances. Donc, je douille un peu, mais j'y étais cette semaine. il faut les mâcher. D'accord. Voilà, j'ai appris un truc. Mais oui, le dentiste, c'est fait, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais pas vous faire tout l'historique, mais il faut mettre une couronne, dévitaliser, tout ça. Donc ça va prendre quelques... J'y retourne bientôt. Allez, j'y suis allé en français. Qu'est-ce que j'ai raté? À quand une fantaisie? Je suis dirigeant des brands. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait. On pourrait faire ça. Doctissimo Actu, c'est vrai. L'huile essentielle du clou de girofle, c'est bien mieux. D'accord. J'en connais un qui va aller chez la vie claire. Il faut prendre un vrai clou. Amputation au niveau du cou. Je vous sens taquin. Vous moquez pas, c'est pas drôle. J'en ai marre d'avoir mal aux dents, franchement. C'est pas agréable. Bref. Oui, bah oui, c'est l'instant my life de fin de fin. Et encore, vous avez échappé au mal de dos. J'étais bloqué avant-hier. Donc, c'était la totale. Je suis allé chez le dentiste avec le dos bloqué. C'était un bonheur. N'évite pas. Ah oui, pardon. Voilà. Merci. Merci à Vincent de me rappeler ça. Ma dernière question, dernière saison pour Brice. C'est comme Brady, si vous voulez. Moi, mon avis, il vaut pas plus que le vôtre. J'aimerais bien vous dire que j'ai des infos exclusives là-dessus, mais dans ce cas-là, je les publierai sur le site. Et honnêtement, là, on n'en sait rien. Évidemment, partir sur un titre, s'il arrive à partir sur un titre, ce serait top, comme Peyton Manning il y a quelques années. Donc voilà, il faut. Il faut. Je lis quelques commentaires, c'est pour ça que je rigole. Si lui il pense que c'est le moment, évidemment, l'idéal, ce serait s'il peut partir sur un titre. Après, est-ce que ça joue ou pas? Est-ce que Brady, par exemple, là, était moins affirmatif sur le fait. Il a dit c'est très probable que je continue à jouer, ou c'est peu probable que je prenne ma retraite. Je ne sais plus comment il a dit. Mais franchement, c'est dur de lire dans leurs pensées, donc malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup. Ouais, mais vous voyez, vous dites. Comment dire, vous dites ils pètent encore le feu, etc. Mais il y a bien un moment où il faut arrêter. Hein. Ils ont aussi des familles, peut-être d'autres envie de faire d'autres choses. Peut-être voilà. Bon, voilà. Donc, encore une fois, impossible de lire dans leurs pensées. si le dentiste n'a pas réussi à régler ton mal de dents, parle-lui de ton problème de dos, peut-être qu'il pourra y faire quelque chose. J'ai été agréablement surpris par la tenue des lombaires au niveau de son fauteuil. Allez, ça va dépendre si une équipe le veut aussi. Oui, ça c'est pour Brady, c'est vrai qu'il faudra voir qui voudra le signer, quelle situation. Moi j'ai un mal fou à m'imaginer Brady sous un autre maillot. Je n'y croirais pas tant que je ne l'aurais pas vu prendre un snap dans un match en saison sous un autre maillot, sinon je ne peux pas y croire. Brice peut shooter d'un coup comme Manning aussi, dit Lu Scorpio. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à peu près performants encore. La dernière saison de Manning, c'était pas beau à voir, quoi. Donc oui, il a gagné, mais vaut mieux gagner et s'arrêter au sommet. John Elway l'a fait, par exemple. Donc voilà, c'est va voir un ostéopathe pour tes dents. Bon, en tout cas, je vais arrêter de vous parler de mes dents quand même. Donc voilà, mais oui, non, mais Montana a bien changé d'équipe. Hein, Funboy a raison, mais ça reste bizarre. Ça peut arriver, hein, mais j'y croirai que quand je le verrai. Voilà. Voilà pour tout ça. Écoutez, il est 18h59. On va probablement s'arrêter là. Je vous rappelle plusieurs choses. Un, l'émission vous était présentée par Unibet. Je vais tirer au sort quelqu'un qui va recevoir le sweat.
C'est quelle taille? Attendez, c'est quelle taille? C'est du L, je crois. C'est duel.
Je vais tirer au sort là-dedans. Le Gardner Minshew, il a été remporté. Félicitations. Les trois autres, Bossa, McCaffrey, Lamar Jackson derrière moi, seront à gagner dans les semaines à venir. Et on vous remercie évidemment de nous avoir suivis. Je le rappelle, Unibet présentait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. S'il y a un match à 19h dimanche, et bah c'est qu'il y aura un fauteuil à 18h dimanche. Il est 19h tout pile. C'est l'heure du match entre les Saints et les Vikings. J'allais en faire c'est les affiches. Vous avez donc beaucoup mieux à faire que de me regarder. Il y a des matchs à regarder. On se retrouve dès demain. N'oubliez pas le podcast pendant les playoffs. C'est dès le lundi pour le débrief. À demain dans le podcast avec Raphaël. Très bonne soirée, très bon match à tous. Ciao, ciao!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.